France Culture.
This is Cole. Yes, I hear you. What do you mean, trouble?
Fog anger.
But it is Laura Palmer.
12h, 13h30. Les midis de culture. Marie Laborie.
Et le thème de Twin Peaks, évidemment signé Angelo Badalamenti, à tout seigneur, tout honneur. Nous vous proposons une émission spéciale David Lynch. Le réalisateur nous a quittés hier soir, il avait 78 ans. Une immense perte, évidemment, pour le cinéma et pour les spectateurs, surtout que nous sommes. On va revenir sur son œuvre, son cinéma, son univers. Et pour évoquer David Lynch, nos invités, Bertrand Mandico, cinéaste et plasticien, bonjour.
Bonjour.
Yael Sada, journaliste et critique au Cahier du cinéma, bonjour.
Bonjour.
Et Gisèle Vienne, metteuse en scène et plasticienne, vous êtes à distance, vous êtes en répétition, bonjour Gisèle.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les trois. Nous voilà donc dans un monde où David Lynch n'est pas. Elephant Man, Blue Velvet, Sailor et Lula, Lost Highway, Mulholland Drive, chacun de ces 10 longs métrages a été un jalon dans l'histoire du cinéma. Explorateur des rêves, souvent des cauchemars, créateur d'une esthétique unique qui désormais inspire un grand nombre d'artistes, Lynch n'est plus, mais il est partout. Alors avant d'en parler avec vous, mes invités, je vous propose d'écouter David Lynch, la voix de David Lynch. Il s'exprimait en 2001 sur le fait justement de parler de ses propres films.
You know, a film, since it's complete, in my mind, nothing should be talked about more.
Vous savez, un film, à partir du moment où il est achevé, pour moi, il n'y a plus rien à en dire. Et je trouve ça vraiment dommage que, lorsque quelque chose est terminé, on vous demande de le traduire par des mots.
Because it never will work.
Parce que ça ne fonctionnera jamais. On ne pourra jamais traduire par des mots ce qu'est le film.
Some films maybe have a theme.
Certains films peuvent avoir des thèmes, mais même s'il y a un thème, ça sera un thème différent pour chacune des personnes qui aura vu le film. Donc c'est mieux de laisser les gens développer leurs propres idées après avoir vu le film et en avoir fait l'expérience.
Alors voilà, nous on va commencer comme ça, on va parler des films à la place de David Lynch et je voudrais tout simplement savoir quelle expérience les uns et les autres vous avez vécu avec les films de David Lynch, Bertrand Mandico par exemple.
Vous parliez tout à l'heure d'une filmographie qui a jalonné comme ça plusieurs époques. Moi j'ai eu la chance de découvrir enfant Elephant Man en VHS. Donc Lynch c'est quelqu'un qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Donc pour moi c'est faire le deuil de cet accompagnement égoïstement parce que c'était très important ce phare qu'est David Lynch. C'était vraiment mon guide quoi, mon maître. Alors j'ai des souvenirs incandescents parce que quand je suis allé voir Blue Velvet, j'étais un peu jeune pour aller le voir dans un cinéma d'une station balnéaire où j'avais traîné mon père en lui faisant croire que c'était un film, un polar, voilà. La pellicule s'est bloquée dans le projecteur pendant une crise de Dennis Hopper et le photogramme a brûlé. Ça a été très très marquant pour moi. Donc pour moi, Lynch, c'est le feu sur la
pellicule.
Voilà, c'est le cinéaste incandescent.
Ouais. Yael Sada.
Oui, moi j'ai découvert avec Mulholland Drive et ça a été en fait un choc évidemment, mais qui m'a appris quelque chose sur la notion de sens. C'est-à-dire que j'ai mon premier réflexe en tant que jeune cinéphile en devenir a été de décortiquer le film, d'essayer de l'analyser, de comprendre, etc. Et puis j'ai en fait renoncé assez vite parce que ce que j'ai compris que ce que faisait Lynch, c'était creuser en fait une brèche non seulement dans le réel du film, mais dans l'histoire du cinéma et dans notre compréhension de ce qu'est la réalité, et qu'il fallait simplement accepter de s'engouffrer dedans, voilà. Et d'ailleurs là en disparaissant il c'est une énorme, enfin c'est une béance tragique et très difficile pour les gens qui aiment son cinéma et pour beaucoup de gens donc, mais c'est ce que son cinéma a toujours fait, creuser des béances, creuser des brèches comme ça.
Gisèle Vienne, votre expérience avec les films de David Lynch?
Mon expérience, c'est que voilà, il fait partie des artistes qui inventent vraiment des langages qui nous permettent de parler le monde autrement, de le comprendre autrement. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces artistes que je chéris immensément, qui déplace, qui questionne et déplace les cadres perceptifs. Mmh. Et effectivement, quand j'ai découvert les films de Lynch, je me suis dit, ben, le monde ressemble, de mon point de vue, le monde ressemble plus au film de Lynch qu'au reste de l'industrie hollywoodienne et au film de Clint Eastwood. Mmh. Et effectivement, c'est un rapport au réel et à la réalité, et qui définit ce qui fait réel et réalité. Et bien sûr, c'est un rapport au doute, c'est un rapport aux différents types de perceptions. C'est-à-dire, il y a aussi des clashs formels dans ces films. Donc voilà, pour moi, c'est effectivement une manière de questionner la perception du monde, et qu'effectivement, il est mêlé de choses que l'on comprend plus ou moins de différentes manières, plutôt que... Enfin, moi, ça me fait penser vraiment à l'histoire du roman critiqué notamment par Rob Grier. C'est-à-dire que je pense que l'industrie hollywoodienne et le cinéma mainstream restent dans des formes de narration qui ressemblent au roman de Balzac du 19e siècle, qui est très, très, très vieux, normatif et réactionnaire dans sa manière de raconter. Et Lynch fait partie de ces quelques réalisateurs qui vont effectivement chambouler, comme par exemple ont pu le faire les auteurs du nouveau roman, d'un point de vue formel, vont questionner, déplacer nos cadres perceptifs, et c'est révolutionnaire.
Mmh. Et s'il y a un film, le premier film que vous avez vu, par exemple, de David Lynch,
Je crois que c'est Sailor et Lula, soit c'est Eraserhead.
Ah, le tout premier, oui.
Je crois que c'est Eraserhead, et que, en fait, j'étais avec mon frère, et lui voulait voir, genre, je sais pas comment ça s'appelait, genre, je sais pas, une espèce de comédie avec, je sais plus qui, une espèce de comédie française absolument rebutante. Et moi, je voulais voir ça, et je l'ai obligé à aller voir Eraserhead, et on s'est super fâchés après ça, et moi, j'étais hyper heureuse d'avoir eu ce film.
C'était un petit peu violent peut-être pour lui. Bertrand Mandico, quand on dit aujourd'hui qu'une œuvre est lynchienne, c'est devenu vraiment un adjectif maintenant. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire à votre sens ?
Il y a la notion d'étrangeté et de part dans l'œuvre qu'on ne peut pas comprendre vraiment ou pouvoir analyser justement, qui n'a pas de prise avec l'analyse. Ce qui est fascinant avec Lynch, c'est que c'est quelqu'un qui est dans l'intuition quand il fait ses films. Hein. Il n'intellectualise pas ce qu'il est en train de faire. Il ressent le monde et il va nous donner à voir le monde tel qu'il le reçoit, en mettant en scène ses doutes, ses peurs et en ouvrant une porte vers un autre monde. Et donc l'œuvre lynchienne, c'est ça. C'est l'œuvre qui s'ouvre à un autre monde et qui gardera sa part de mystère. Après, c'est devenu aussi un adjectif un peu fourre-tout. Mais l'œuvre lynchienne, pour moi, il n'y a que Lynch qui puisse faire des œuvres lynchiennes, hein, en réalité.
Alors, bon, 10 films, c'est pas énorme en vrai. 10 films, finalement, il n'a pas inondé le monde de ses films. Mais effectivement, on vient de citer Eraserhead, son premier film, c'est en 76, je crois. De Eraserhead à Inland Empire, quels sont les grands thèmes qu'on retrouve dans le cinéma de Lynch, Yael Sada?
Je parlais d'ouvrir une brèche dans le réel, et c'est vrai que je ne sais pas si on peut parler réellement de thème, parce que même David Lynch lui-même ne parlait pas de son cinéma en termes de sujet particulier. Mmh. Par exemple, pour Mulholland Drive, il dit j'ai simplement eu la vision d'une femme qui était égarée dans Los Angeles. J'ai compris plus tard que c'était un film sur Hollywood. On pourrait dire que c'est d'abord des paysages comme ça, des situations, et notamment ce paysage américain, cette banalité américaine qui revient sans cesse et qu'on a appris à voir autrement avec ses films, parce que on ne peut plus du tout la regarder comme quelque chose justement de banal, cette espèce de trivialité, vous savez, des restos-routes, des endroits à la Twin Peaks, évidemment, parce qu'on a parlé des films, mais il y a aussi les séries, il y a plusieurs projets télévisuels, il y a plein de choses chez Lynch, c'est très multiforme, mais effectivement dans Twin Peaks ou autre, on a cette ou Blue Velvet, cette américanité qui tout à coup nous paraît à la fois extrêmement familière et extrêmement inquiétante. On a parlé effectivement d'étrangeté, Bertrand, c'est ça, c'est l'idée d'une étrangeté familière. C'est même pas, c'est l'inquiétante étrangeté, mais c'est aussi le bonheur d'être inquiet en regardant une tasse de café, ou bien en s'émerveillant, comme dans Twin Peaks saison 3, de l'électricité, qui tout à coup, le personnage redécouvre l'électricité. Enfin, on a l'impression que Lynch s'émerveille et s'inquiète de la possibilité qu'on puisse vivre dans un monde connecté. Enfin, c'est des idées très libres comme ça qui nous font revoir l'Amérique autrement.
Alors on va écouter un extrait de d'Elephant Man, qui est sans doute le film qui où Lynch a rencontré, on va dire, le grand public. C'est un film de 1980.
Notez, je vous prie, l'extrême hypertrophie du crâne, l'invalidité complète du bras droit et la cambrure inquiétante de la colonne vertébrale. Tournez-le, s'il vous plaît.
Tournez-vous, s'il vous plaît.
La peau est flasque et présente des tumeurs fibreuses qui recouvrent le corps à 90%. Ah, détail intéressant, en dépit de toutes les difformités mentionnées, les parties génitales du patient sont intactes et normales. Ainsi, chers confrères, et en regard des faits observés, exostose congénitale de la boîte crânienne, papillome géant, hypertrophie marquée du membre supérieur droit et de son ossature, importante distorsion de la tête, disproportion du corps, recouvert de papillome géant, on a surnommé le sujet l'homme éléphant.
Elephant Man, David Lynch, 1980, Bertrand Mandico, ce film en noir et blanc, je l'ai dit, c'est là qu'il rencontre le grand public. Est-ce qu'en germe, il y a dedans le David Lynch de Blue Velvet et des suivants?
C'est l'histoire du film est très particulière parce qu'il fait juste avant Eraserhead, qui est un long métrage expérimental qu'il fait dans le cadre de son école. Il est étudiant en cinéma expérimental et Eraserhead devient un film culte. Il rentre dans les séances de minuit. Les gens ont vu le film, ont été marqués par ce qu'ils ont vu et entendu. C'est un film c'est une proposition esthétique absolument délirante par rapport à l'époque. On est en même temps, il y a Star Wars qui sort. Enfin, pour faire comme ça un parallèle. Et il y a un homme qui s'appelle Mel Brooke, qui est connu pour ses films burlesques, qui a le très bon goût d'aller chercher David Lynch et de lui proposer de réaliser Elephant Man. Donc c'est un film de commande. Il comprend... donc Mel Brooke, qui est toujours vivant, qui a 98 ans en ce moment, a cette idée géniale d'aller chercher ce cinéaste expérimental et lui proposer de faire un film grand public avec sa sensibilité. Et donc Lynch va déployer tout son univers et en même temps s'adapter au sujet dans cette Angleterre victorienne avec ce personnage qui est un fric, qui est un monstre, mais qu'il va rendre extrêmement tendre, extrêmement doux. Enfin, on est vraiment dans un film ultra sensible et c'est ça qui est merveilleux avec Elephant Man. C'est à la fois l'ultra sensibilité de Lynch et toujours l'inquiétude, le mal qui rôde. Voilà, ce film contient comme tous les films de Lynch, ses obsessions.
Yael Sada ?
Oui, c'est vrai que la notion de la question du mal est présente, c'est-à-dire qu'il y a une lutte effectivement. C'est pas même si lui se gardait bien de parler de ses films en termes politiques, il y a un affrontement comme ça, une lutte parfois même au sein d'un même personnage. Le dédoublement du encore une fois dans Twin Peaks, le personnage de l'agent Cooper qui va se dédoubler, le fait de se voir autre et de s'entendre parler à l'envers, ce qui est un motif qui revient chez lui. Et je pense que voilà, il y a une conflictualité, mais elle est jamais politique, jamais facilement, on peut jamais l'établir comme en termes de polarisation de conflit ou voilà.
Gisèle Vienne, pour parler de l'univers et de l'esthétique de David Lynch, est-ce qu'il a pu vous, d'une certaine façon, vous inspirer, vous marquer, vous influencer?
Oui, moi j'ai envie de dire, en fait, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est le fait que ça fasse partie des gens qui inventent vraiment des langages, qui a un travail formel très spécifique, et effectivement qui va parler, faire parler, écouter le monde autrement, ça c'est super politique en fait. Ça passe par, pour moi, des choses qui sont, j'ai une grande passion pour Dale Cooper et Dale Cooper, il fait quand même 3 saisons plus un Firewalk with Me Et pour moi, il y a quand même des choses qui sont très claires, qui croisent certainement aussi la pratique de David Lynch de la méditation, c'est-à-dire c'est quoi l'expérience du réel, c'est quoi l'expérience du présent. Et quand Dale Cooper arrive dans Twin Peaks, il interroge les évidences, il arrive comme un étranger et il a effectivement, c'est vraiment cette autre personne qui arrive dans le monde et qui va remettre en question toutes les évidences, qui va les interroger et qui va retourner les habitudes perceptives et les évidences perceptives. Donc ça me semble être extrêmement fort. Et oui, c'est-à-dire ça se traduit aussi par, j'ai envie de dire, des collages formels avec des passages qui ont... On a l'impression qu'on est dans un sitcom. Mm-hmm. Ensuite, on est dans une scène qui est complètement... On a l'impression d'être dans le rêve ou dans le cauchemar. Donc, on a comme ça des collages formels. Et ces collages formels, ils me semblent très spécifiques à son cinéma et effectivement permettent de déplier ce qui fait l'expérience du réel, qui n'est pas une esthétique en fait. L'expérience du réel, c'est différents types, c'est le présent, le passé, le futur anticipé, c'est l'imagination, c'est le rêve, c'est quoi toutes ces strates qui font l'expérience du présent et du réel, et toutes ces strates n'ont pas une esthétique et une forme, et c'est ces clashs formels qui sont effectivement de l'image, de la matière, du son, des manières de jouer, et que je trouve dans la saison 3 Twin Peaks absolument réjouissante, qui remettent en question effectivement la manière dont va être défini le réel par le cinéma mainstream. Après, voilà, je trouve que c'est... Comment dire, on parle de... Oui, il y a quand même des choses qui sont... il y a quand même beaucoup de thématiques, mais quand on parle de Twin Peaks et Fire Walk With Me, c'est quand même trois saisons plus un long métrage au cœur duquel est une comment dire est menée une enquête sur une fille incestée. Mm-hmm. Donc c'est quand même un vrai sujet et il le traite donc c'est pour ça des fois j'en dis oui mystérieux et des fois non pas mystérieux, justement l'inceste serait toujours si mystérieux, ben il l'est pas du tout et je trouve qu'il l'a déplié de manière extrêmement pertinente et précise. Et ce que je voulais rebondir aussi sur la phrase de tout à l'heure, j'ai envie de dire, oui, c'est ressenti, et c'est comme ce soir, je vais présenter un film d'Ackerman, où aussi j'entends Ackerman est-elle intellectuelle ou sensible. Ben non, le ressentir, c'est intellectuel, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, on réfléchit à partir de la matière cinéma, on réfléchit à partir de la manière artistique. On pense pas abstraitement, en fait. On pense à partir du corps et des sentiments. Donc, pour moi, Lynch, Ackerman, Apichatpong, Veracetakul, enfin, tous ces gens-là sont des grands intellectuels parce qu'ils travaillent avec une extrême finesse la question du vécu. Qu'est-ce qui est vécu, en fait?
Et c'est très enthousiasmant de savoir que ces personnes-là, ces intellectuels-là, comme vous le dites, ont rencontré un grand public. C'est-à-dire que Twin Peaks, les deux premières saisons, au moins, enfin la première saison, plus tout ce qui est autour, ça a rencontré et ça a parlé aux gens.
Oui, ouais. c'est vrai que parce qu'il y a une forme au départ, c'est ça qui est assez troublant, c'est que il se moule presque dans dans une forme de feuilleton télé qu'on avait l'habitude de voir. Il y a beaucoup de gens qui à l'époque se sont laissés happer par la série parce qu'il y avait cette familiarité encore une fois formelle. Et il y a un grand respect, je pense, de Lynch pour des formes classiques. C'est pas un cinéaste cinéphile. C'est le contraire de Martin Scorsese. D'ailleurs, il le disait. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui stocke des films chez moi, j'aime les grands noms, j'aime Hawks, j'aime Hitchcock, je sais tout ce que je sais, j'aime John Ford, qu'il a joué d'ailleurs, c'est son dernier rôle au cinéma pour Steven Spielberg, où il joue le John Ford.
Dans The Fabelmans, oui.
Ouais, dans The Fabelmans, donc c'est quelqu'un qui a des références très classiques, et qui ne se méfie jamais, qui cherche jamais l'hermétisme, donc je pense que c'est pour ça qu'il a rencontré sans problème le public.
Mm-hmm. Bertrand Mandico, Gilles Vienne évoquait la façon de jouer, hein, que ça passe. Voilà, c'est une des choses intéressantes dans le travail de Lynch. Quel directeur d'acteur c'était?
Enfin, ce qu'on a pu voir, hein, ce qui a été documenté, c'est un directeur d'acteur qui va employer des termes extrêmement poétiques, décalés pour arriver à ses fins. Il est vraiment dans le ressenti du jeu, et donc c'est très énigmatique, hein, sa direction d'acteur. Il va comme ça guider les acteurs et les actrices, mais qui sont toujours extrêmement justes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est frappant dans son travail. Il n'y a jamais de fausse note en termes de direction d'acteur, mais lui va les amener sur le chemin grâce à son texte, grâce à ses dialogues, mais comme ça avec des mots qui vont être donnés, qui peuvent paraître abstraites, mais qui vont réussir à guider acteurs et actrices. Alors, par rapport à ce que disait Yael Sadat, effectivement, c'est quelqu'un qui est très pudique par rapport à sa culture cinématographique. Alors, il citait aussi beaucoup Bergman et Fellini, hein, il y avait toute la part européenne, et il y avait aussi... Enfin, une façon de ne pas vouloir aussi trop raconter sa cuisine interne et parler de ses influences. Mais par exemple, il a fini par dire qu'une de ses influences était Le jour du fléau, de Schlesinger, qui est un film à revoir aujourd'hui avec Hollywood en feu, qui est un film qui fait vraiment écho au cinéma de Lynch. Donc, à la fois, il y a cette pudeur par rapport à sa culture cinématographique, mais en même temps, il y a une connaissance artistique globale, hein, que ce soit musical, art plastique, etc., qui est très 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 forte chez Lynch.
Alors Lynch, c'est aussi, on l'a dit hein, plusieurs fois, que c'était celui qui savait mettre en scène l'étrange, qui provoque le sentiment d'angoisse, voire de peur véritable, comme dans cet extrait de Lost Highway que tous les fans de Lynch vont reconnaître.
Où est-ce qu'on s'est rencontrés d'après vous?
Dans votre maison, vous ne vous rappelez pas?
Non, pas du tout. Vous êtes sûr?
Bien entendu. Je peux même vous dire que j'y suis encore maintenant.
Que voulez-vous dire? Vous êtes où maintenant?
Dans votre maison.
C'est complètement fou.
Appelez-moi. Faites votre numéro. Allez-y.
Je vous ai dit que j'étais ici.
Comment faites-vous ça ?
Interrogez-moi.
Comment avez-vous fait pour entrer chez moi?
Vous m'y avez invité. Ce n'est pas dans mes habitudes d'aller là où on ne veut pas de moi.
Qui êtes-vous?
Lost Highway de David Lynch, il y a vraiment une mécanique Lynch qu'on reconnaît là quand même. C'est vraiment du velours, j'ai envie de dire, Bertrand Mandicot.
Oui, c'est une situation assez réaliste, enfin une soirée, quelqu'un qui a un personnage très très étrange et très inquiétant qui s'approche du protagoniste et qui lui tend un téléphone, et à partir de là, distorsion de la réalité, on a entendu, c'est la VF qui est beaucoup moins heureuse que la VO, mais on a entendu dans la bande-son la façon dont Lynch va aussi travailler des nappes sonores, nous faire arriver à un état d'angoisse aussi par le son. C'est-à-dire que l'image et la mise en scène est relativement classique, c'est ça qui est formidable chez Lynch, avec des plans de temps en temps incandescents, mais c'est le travail sur le son, sur la bande-son, qui va appuyer la distorsion de la réalité.
Gisèle Vienne, la façon dont David Lynch a toujours su comme ça instiller l'angoisse et la faire monter, c'est un procédé, une façon de travailler, d'aborder cette question qui vous intéresse?
Oui, je pense qu'il est, il sait extrêmement bien composer, enfin pour moi vraiment écrire le cinéma, c'est-à-dire avec les matières, l'architecture, les corps, les sons, les couleurs. Enfin, c'est vraiment de la composition qui utilise complètement le médium cinéma. Il est pour moi dans des logiques perceptive de la mise en scène, c'est-à-dire l'émotion. Enfin, je veux dire, on n'est jamais dans un rapport entre guillemets c'est pas possible, on est dans un rapport objectif, donc comment est-ce que l'émotion ou les émotions vont influencer ma perception du réel, et il suit ces logiques-là. D'où à la fois peut-être une sensation d'étrangeté parce qu'on n'est pas dans une manière normative de représenter, mmh. et d'où par ailleurs pour moi quand même une sensation de familiarité, parce qu'effectivement si je suis angoissée ou si je suis dans des émois sensuels ou amoureux, si ça change, je vais regarder, je vais entendre autrement, et il va travailler les qualités sonores dans une logique pour moi qui est vraiment émotionnelle et perceptive, c'est-à-dire comment est-ce que j'entends la voix de un tel si je suis dans une dynamique extrêmement sensuelle, ou si je suis dans une angoisse totale, ou si je suis tétanisée, ou si je n'en ai rien à faire. Enfin, donc du coup, il pour moi, il est vraiment dans un langage qui suit effectivement la subjectivité et l'expérience du réel avec une immense précision et aussi de manière, pour moi, sensuelle, ludique, drôle. Pour moi, c'est aussi quand je dis composition, c'est-à-dire, pour moi, le cinéma, c'est autant de la musique que de la chorégraphie, que de la peinture, que de la photographie. Ça passe par aussi, je trouve qu'il a un rapport à la musique qui est extrêmement qui est très fort. Quoi.
Il était musicien, de toute façon, on va l'entendre d'ailleurs à la fin de l'émission, l'émission qui touche bientôt à sa fin. Yael Sadat, vous l'avez rencontré en 2023, oui. Vous êtes un des derniers à l'avoir vu. Il en était où de son rapport au cinéma? Il nous reste peu de temps.
Il était justement en train de... Il regrettait beaucoup de ne pas avoir les forces, de pouvoir continuer. Il aurait voulu faire une série. Il disait parce qu'une série c'est comme un fleuve, c'est-à-dire qu'on baigne tous les gens qui la regardent baignent dans le même fleuve. Il y a un rapport au temps qui est différent. Et malheureusement, même s'il était à son bureau quand je l'ai vu, où il faisait encore de petites choses, des petits courts métrages, on sait qu'il aime peindre aussi. Les choses restaient en suspens. Et il avait un projet avec Netflix dont on n'a plus une nouvelle. Il avait fait un court métrage pour Netflix qui était très bon, là où son humour ressort justement. What Did Jack Do, Café Jack avec un singe, dont il me parlait comme si c'était un acteur. Donc il a un humour qui est très spécial, David Lynch aussi.
Merci beaucoup en tout cas, merci Gisèle Vienne de nous avoir accordé un peu de temps sur vos répétitions, merci Bertrand Mandico et Yael Sadat d'être venus nous parler de votre David Lynch. On se quitte d'ailleurs sur David Lynch, musicien et chanteur, avec Crazy Clown Time. Shirt off completely.